Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons ce soir regarder un tout petit peu les multiples questions que vous avez posées pour cette conférence concernant surtout l'opération Petit Poucet. En effet, disons qu'on va dire que pour l'année 2014, les choses semblent être assez pliées d'une certaine manière. C'est-à-dire que les sorties au mois de décembre vont être rares dans notre cas, car nous avons vraiment, vraiment accumulé beaucoup de retard dans plein de domaines. Et maintenant, suite à on va dire, nos déplacements beaucoup plus prolongés que prévu, eh bien, on a quand même beaucoup de choses à faire. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer gentiment par une question de Romain sur l'avancement de l'OPP. Comment avance l'OPP selon toi et les êtres de l'invisible? Est-ce que la montée en fréquence de la France a-t-elle déjà fait fuir une partie des envolements éthériques du pays et des alentours? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes au tout début, on va dire, de l'opération OPP. Comme vous avez pu le voir au fur et à mesure de nos rencontres et des différents parcours que nous avons faits, eh bien, la brouette s'est chargée de plus en plus à fur et à mesure qu'on avançait. Et si cette brouette s'est chargée de plus en plus, c'est parce que, en fait, il y avait, on va dire, des conséquences de cause à effet. Donc le fait que l'on fasse qu'une chose a amené des effets, et ces effets a demandé à ce qu'on réagisse en conséquence. Et le résultat, nous sommes arrivés à une espèce d'avalanche en termes de somme de travail à faire assez conséquente, on va dire. Et donc la méthodologie avec laquelle j'étais parti, s'est modifiée au fur et à mesure que on a avancé dans le parcours. Donc c'est pour cela que le planning originel qui était prévu et qui aurait dû théoriquement au niveau des encodages des cailloux se terminer au 15 septembre, on va dire que ça a été difficile et en fait les choses ont bien duré. Alors il y a eu effectivement beaucoup de choses qui se sont passées, énormément de choses qui se sont passées. Alors vous avez pu voir à travers les quelques écrits que j'ai eu le temps de faire un petit peu l'avancée, mais je suis très loin de vous avoir donné, on va dire, tous les détails parce que pratiquement c'est impossible. Et deuxièmement, les involuants, dites-vous bien que les plus grands involuants qui soient sur la planète sont quand même les créateurs incarnés, c'est-à-dire nous. Donc à la fois, je dois faire un exercice d'équilibriste, c'est-à-dire donner quand même suffisamment d'informations pour que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe, comment ça avance, et en même temps, je ne dois pas aller trop dans les détails pour éviter, bien sûr, qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Donc vous voyez, l'exercice est plus ou moins délicat selon les cas. Alors, l'OPP avance, on va dire, très très bien. Je dirais que du côté de l'invisible, il ne pensait pas, il ne pensait absolument pas que deux petits bouts de charbon, aidés de centaines d'autres, allaient faire autant de boulot. Ils y croyaient pas, et ce qui les a, on va dire, bluffés, ça a été la persistance avec laquelle nous avons signé. C'est-à-dire que ils savent que les humains, on va dire, tournent leur veste assez rapidement, ou au départ sont toujours enthousiastes, démarrent au quart de tour, voire même plus vite, et puis au bout de quelques semaines, ou de quelques mois, généralement, ils sont retombés à l'état zéro parce que ça y est, l'impulsion a été finie. Donc là, ils ont été, je dirais, très surpris, surtout concernant la tournée 3, parce que la tournée 3 était une tournée extrêmement difficile, où il y a eu, on va dire, beaucoup de contacts avec l'aspect sombre, hein. C'est aussi un autre vocabulaire utilisé par l'invisible, c'est-à-dire que certains parlent d'involuant, mais quand nous discutons avec les êtres de la nature, ils ne parlent pas d'involuant, ils parlent de sombre. Et donc quand ils parlent de sombre, c'est particulièrement, on va dire, les involuants dans l'éthérique. Hein, parce que eux, je vous rappelle qu'ils n'ont pas la nuit chez eux, donc pour eux, il fait toujours jour. Et donc leur vision des involuants est une vision sombre. Voilà. Donc bien, il faut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses et que nous avons rencontré effectivement beaucoup de sombritude à fur et à mesure que nous venions, nous avancions en fait dans notre parcours. Et il s'est avéré même que progressivement, vous savez que les sombres ont cette capacité de pouvoir, on va dire, contrôler un humain. Et donc on a eu effectivement des bâtons dans les roues de la part d'humains, tout simplement, qui ne savaient absolument pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient totalement manipulés. Et donc, les choses se sont compliquées au fur et à mesure que nous avancions parce que le travail qui était effectué les a réveillés. C'est-à-dire qu'avant, c'était une petite piqûre, vous savez, quand vous entendez les moustiques, vous dites bon, mais rien, etc. Mais là, ils commençaient à se faire bouffer sérieux, et donc ils ont levé le nez, et ils ont commencé à, on va dire, à agir, enfin, à réagir d'une certaine manière, sans trop comprendre qu'est-ce qui se passait, parce que ils ne s'attendaient pas, mais absolument pas, à l'énergie déployée, autant du côté, on va dire, de chez nous, que du côté de l'invisible, c'est-à-dire de tous les êtres, les EDL et les êtres de la nature. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il allait avoir autant de monde. Donc, on peut dire que l'OPP a bien commencé. Le travail est loin d'être terminé, c'est évident. Il ne sera terminé que quand la planète aura été nettoyée. Mais bon, ça, c'est pas une vision à 3 mois, vous vous en doutez bien. C'est une vision à plusieurs années. Mais il faut commencer par le commencement. Et comme vous le savez tous, le commencement, c'est la France. Alors après, ben, on va s'occuper des autres pays, bien sûr. Mais c'est d'abord la France. Comme vous avez pu le voir lors de la dernière vidéo, eh bien, l'Italie du Nord va avoir droit quand même à quelque chose de particulier, ainsi que l'Espagne du Nord, parce que ce sont les deux pays limitrophes à la France qui sont, on va dire, les plus englués dans la sombritude. Alors, la montée en fréquence de la France se fait, parce que maintenant, il est visible de très haut. Vous savez, c'est comme si vous aviez une pomme, on va dire, entre guillemets, et vous prenez un couteau, puis vous commencez à vouloir peler la pomme, vous savez, donc vous accrochez un tout petit peu, et puis bah, ça fait comme un petit coin arrondi qui commence à décoller gentiment. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vu de là-haut, eh bien, on a, on va dire, décollé un coin du voile de la sombritude. C'est-à-dire que, en ayant fait quasiment tout pas tout le sud-ouest, parce qu'il nous reste toute la région, on va dire, qui borde l'Atlantique. Il y a une coupure réelle et profonde qui a commencé véritablement dans le sud-ouest et qui est passée ensuite jusqu'au sud-est et qui est remontée jusqu'au lac Léman. Donc on pouvait imaginer comme une espèce de, pas de capsule, mais d'étiquette que l'on décolle. Et le bout de l'étiquette serait grosso modo Nice, et vous avez décollé l'étiquette de telle manière que vous voyez la déchirure qui va jusqu'au lac Léman, et l'autre qui va, on va dire, jusqu'à Narbonne, Toulouse, enfin dans ces eaux-là, quoi. Donc, on a commencé à décoller le voile, et on peut dire que dans les villes où nous sommes passés, on va dire, dans la troisième tournée principalement, ont été travaillées très spécifiquement, puisque au lieu d'encoder simplement un simple édifice religieux, style cathédrale, nous en avons fait plusieurs, de telle manière qu'il y a un effet résonance entre tous ces bâtiments. Donc tout ce travail qui a été fait sera remis en ligne, par Brigitte, sur le nouveau, on va dire, sur une nouvelle carte de France, qui, elle, est détaillée sous forme, on va dire, de département. C'est-à-dire que par département, vous verrez ensuite quels sont tous les édifices qui ont été bien sûr encodés, et ainsi que tout le nom des EDL de 7D12D que nous avons rencontrés. En effet, il nous a été reporté, et je l'ai bien senti comme ça aussi, d'une certaine manière, c'est que quand nous parlons d'ange ou d'archange, tout de suite nous nous sommes rattachés à l'égrégore qui traîne sur les anges et les archanges. Or, nous allons vers la 5D6D. Et la 5D6D veut dire qu'on ne prend rien de la 3D4D, donc y compris toutes les croyances qui sont apportées concernant, on va dire, les êtres de l'invisible. Donc autant au niveau des EDLN, c'est pas trop gênant, parce que bon, il y avait un folklorique et tout le monde se disait « ouais, bouf, c'est sympa », autant concernant les anges et les archanges, nous avons un problème assez sérieux, puisque un certain nombre de gens disent « oui, mais moi j'ai des anges et je cause avec les archanges et... ». Bon, alors maintenant, la musique est simple, nous allons parler seulement d'êtres de lumière. Les êtres de lumière commencent à la 7D, par rapport au jeu vont jusqu'à la 24D, et ensuite il y a ce que j'appelle les extragalactiques, c'est-à-dire ce sont toujours des êtres de lumière, mais qui, comme dirait l'autre, ne participent pas directement au jeu. Alors c'est une nuance importante, et c'est, on va dire, la plus grosse problématique que nous allons avoir à gérer dans les années à venir. En effet, nous ne sommes absolument pas préparés à recevoir des vibrations, n'étant pas, on va dire, pas en accord, mais n'étant pas en résonance avec le jeu que nous jouons. En clair, comme je vous l'ai dit, le 18 janvier 2014, il y a eu l'ouverture, c'est-à-dire que la galaxie, le voile qui l'emprisonnait a été déchiré. Ce faisant, eh bien, ce qui était à l'extérieur a pu rentrer. Et donc forcément, la galaxie était un petit peu ratatinée sur elle-même, parce que elle a vécu pendant, on va dire, beaucoup de temps sur elle-même. Et donc, comme une pomme ou une patate, elle était flétrie. Donc le fait que cette ouverture soit faite a ramené une pression supplémentaire à l'intérieur, parce qu'on était en dépression d'une certaine manière. Et ce qui se passe, c'est que ce qui était à l'extérieur, eh bien, est donc rentré à l'intérieur de la galaxie et continue à rentrer. Et à l'intérieur de ces énergies qui viennent, eh bien, il y a forcément des êtres de lumière. Et ces êtres de lumière correspondent à d'autres entités qui appartiennent à d'autres galaxies qui n'ont pas connu l'emprisonnement. Et donc, ils sont toujours en train de fureter, de regarder, de voir, parce que ce sont des curieux. Ils sont dans l'amour, et qui dit dans l'amour, dit être dans la communication. Donc, ces êtres, eh bien, vont chercher la communication. Le seul problème, c'est que ce sont des entités qui, d'une certaine manière, ont dépassé la 24D. Puisque s'ils sont sortis de leur galaxie, c'est que ça veut dire qu'ils sont au-delà de la 24D. Donc aujourd'hui nous avons déjà des soucis, parce que quand on dit déjà contacter un ange, ça peut déjà quand même donner un peu d'énergie, contacter un archange, ça vous enfile un paquet, alors contacter un arché, c'est encore beaucoup plus fort, mais alors un extragalactique, vous allez littéralement exploser en vol. En clair, eh bien, la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a des entités qui se dirigent vers nous, juste par curiosité, juste par le goût du partage. Eh bien, vont nous arroser de leurs énergies, et cette énergie, en fait, se rajoute à celle qui était déjà prévue par rapport au calendrier, on va dire, galactique. Et c'est pour cela que les choses s'amplifient d'une manière, on va prendre un mot exponentiel, c'est-à-dire que ça avance tellement vite que tout le monde est surpris. Donc, aujourd'hui, tous les EDL allant de la 7e à la 24e dimension de notre galaxie sont sous pression, dans le sens où il se passe énormément de choses et ils n'arrivent pas à tout gérer. Alors, l'OPP n'a pas, on va dire, arrangé les choses, puisque le fait d'avoir, on va dire, soulevé le voile de la sombritude fait que nous avons maintenant contact avec des entités, mais pas seulement un contact télépathique. Nous commençons à avoir certaines entités qui peuvent s'approcher de la Terre, et forcément, ils vont s'approcher de là où voit la lumière. Et donc, c'est pour cela qu'à fur et à mesure que nous avancions dans la tournée 3, eh bien, nous avions de plus en plus, on va dire, de ménage à faire, et que, il y avait des affrontements beaucoup plus, on va dire, conséquents. Beaucoup plus conséquent, et donc cela nous a éprouvé quand même, il faut le dire, parce que vous pouvez comprendre que se faire sucer en permanence quand on est un préhumain fait que on n'est pas vigoureux, mais en plus quand vous avez des bataillons qui viennent spécifiquement pour vous bouffer, même si vous avez des protections, ça vous pompe. Et donc il était grand temps que nous arrêtions, on va dire, hein, mais bon, il a fallu aller comme des relogues jusqu'au bout, au moins jusqu'au lac Léman, et ensuite, eh bien, de pouvoir reprendre des forces, revenir un tout petit peu à un niveau de fréquence beaucoup plus haut, car vous imaginez bien que plus nous encodons, plus nous affrontons en face de nous, on va dire, une sombritude, et plus cette sombritude, d'une certaine manière, fait tout son possible pour nous faire baisser les fréquences. Et donc, plus nous baissons nos fréquences, et plus nous sommes, on va dire, vulnérables. Donc, il était temps que nous arrêtions, mais ceci n'est qu'une pause. On repartira, on va dire, on continuera cette œuvre-là, puisque pour l'instant, nous sommes en train d'affûter de nouvelles façons, on va dire, de faire. Et donc, l'OPP commence à prendre un tournant assez particulier à ce niveau-là, dans le sens que, dans un délai, on va dire, relativement raisonnable, pour moi, ça sera 2015. La France sera véritablement quasiment dégagée de la sombritude. Alors, il y a des gros morceaux. Vous savez, c'est comme quand vous essayez d'arracher une peau, il y a des endroits où la peau, elle ne veut pas s'arracher, quoi. Et ces endroits, ce sont généralement les grandes villes. Hein, plus la ville est grosse, et plus la position, on va dire, des sombres est forte. Et donc, c'est pour ça que nous sommes attaqués principalement à des gros morceaux et d'une manière systématique. tout en faisant quand même quelques petites choses à droite à gauche dans la cambrousse. Mais il faut comprendre que le nerf, on va dire, des involuments par rapport à la France était ce qui va de l'Espagne, enfin ce qui part de l'Espagne et qui va jusqu'à Rome. Et donc forcément, ça passait par la France. Donc là, on a coupé, on va dire, le gros des troupes. Donc ils sont bien embêtés. Donc nous avons actuellement, bien sûr, les troupes italiennes qui essayent de nous sauter dessus, mais on a fait un véritable barrage, on va dire, au niveau des Alpes. Hein, je vous décrirai un petit peu plus, même je pourrais même vous le dire maintenant. Donc nous avons effectivement encodé énormément dans tout ce qui touche les Alpes et la vallée du Rhône. Donc toutes les grandes villes de la vallée du Rhône ont été faites. Toutes les grandes villes qui étaient sur le pourtour méditerranéen ont été faites. La seule ville où j'ai temporellement pas pu faire les choses, j'ai pu faire que la cathédrale et pas le ménage autour, c'est Aix. Aix-en-Provence, physiquement, on était coincé, quoi. Hein? Et c'est pour ça que dans la tournée 3, vers la fin, je suis quand même redescendu vers le sud parce que il fallait dire finaliser certains points pour être sûr que le travail soit bien fait. Malgré cela, Aix, nous n'avons pas pu, on va dire, faire un nettoyage suffisamment sérieux. Alors, de cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos méthodes ont un tout petit peu changé. Donc maintenant, comme je l'ai dit dans un article, il me semble que nous avons une possibilité d'encodage à distance hors pair. Et j'en reviendrai, c'est la troisième question qu'il y a sur la feuille, donc je vais en parler tout de suite. Par exemple, bon, c'est une question de Cécile. Quand tu nous dis que le groupe à distance opère par rayonnement ou onde ou Wi-Fi, mais je n'utiliserai pas ce terme qui évoque pour moi tant de perversité, les ondes de torsion tournent à l'envers. Pourrais-tu en dire un peu plus? J'ai pour ma part l'impression qu'on fait équipe avec des myriades d'êtres de l'invisible, de tous les règnes, et non pas qu'on interviendrait en personne. Alors, effectivement, donc quand j'ai donné un exemple, le Wi-Fi, c'est simplement pour vous faire comprendre que nous passons par les ondes d'une certaine manière quand nous faisons un encodage à distance tel qu'il est fait actuellement par le groupe. Alors bien sûr, il y a des êtres de l'invisible qui vous aident, parce que sinon tout seul vous n'y arriverez pas, c'est évident. Il faut savoir que ces êtres de l'invisible ont une puissance limitée dans la matière, parce que eux, comme ils sont à des fréquences supérieures, eh bien, quand il faut qu'ils descendent dans la densité, eh bien, ils perdent de cette énergie. Donc, ce qui est fait par un humain n'a rien en rapport, tellement c'est fort par rapport à un être de lumière. Un être de lumière, aussi fort soit-il, ne pourra pas, si vous demandez à un être de lumière de dire, toi, tu prends le caillou là qui fait 2 kilos et tu le déplaces d'un mètre, il ne pourra pas le faire. Parce que la matière est beaucoup trop lourde pour eux. Donc, nous allons les placer sans même se dire qu'on a dépensé une quelconque énergie. Et donc, c'est pour cela que l'équipe, on va dire, de tous les petits poucets est très, très, très importante. Parce que, outre le nombre, c'est surtout la quantité diffusée partout à la fois. C'est-à-dire que ça fait comme une espèce de brouillage et ils ont du mal à voir où se trouve la tête de pont. En effet, nous avons, Corinne et moi, une protection spéciale qui fait que c'est comme si on nous avait mis un sac plastique noir autour de nous afin que notre lumière ne se voie pas. En clair, nous pouvons aller quelque part. Les involuants peinent à nous voir. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement on est masqué à leur vue. Donc c'est pour ça que beaucoup d'êtres de la nature sont souvent surpris quand on les contacte, parce qu'ils voient deux bouts de charbon noir, et ils se disent, attends, c'est bizarre, ils me causent, ils ont l'air de connaître plein de choses, et pourtant ils ne brillent pas. Parce que c'est notre tenue de camouflage. Donc ça nous permet d'opérer, et on va dire, sans avoir des divisions entières de sombre derrière, quoi. On n'a que ceux déjà qui sont sur place, c'est déjà pas mal. Donc voilà pourquoi, d'une certaine manière, on est, on va dire, protégé à un certain niveau. Alors, par rapport à ça, donc le truc, c'est que effectivement, tout ce qui se fait par l'encodage à distance qui est fait actuellement par le groupe, c'est un tout petit peu comme le dopage vibral, c'est comme toute autre chose qui avait été faite avant dans d'autres types d'énergie. C'est-à-dire que ça passe effectivement par d'autres entités qui font un travail sur les personnes. Bon, là, le travail, c'est d'amener un code. Or, je ne sais pas si vous avez la mémoire, mais lors de notre passage en version 2, de l'encodage, c'est-à-dire qu'avant la version 1, c'était une version extrêmement petite et bridée, et il a fallu donc remettre à jour toutes les V1 en V2. Ceci a été confié, on va dire, à deux êtres de la nature, et ces deux êtres de la nature, bon, on va dire c'est un dragon, principalement, avec une deuxième qui avait cette capacité de pouvoir réouvrir les pierres, eh bien, ça leur a pris un temps fou de le faire, mais surtout, nous avons constaté que tout ce qui avait été encodé, mis à jour par eux, ne pouvait pas dépasser la puissance 10 puissance 120. C'est-à-dire que, eh ben, même avec toutes les forces qu'ils avaient, eh bien, ils ne pouvaient pas mettre la patate. Et donc, ça corrobore que quand vous faites un encodage, on va dire à distance, actuellement, vous passez bien par des êtres de l'invisible qui vous aident et qui font tout leur possible, mais, on va dire, la puissance est limitée. C'est comme l'encodage moléculaire. La puissance est, d'une certaine manière, limitée, puisque, par exemple, si une église est encodée, par exemple, par des petits cailloux, eh bien, effectivement, l'encodage va se faire moléculairement parlant, c'est-à-dire que il va y avoir un nettoyage de fer, on est d'accord, mais simplement, à la première messe qui va venir, eh bien, cet encodage va souffrir, on va dire, c'est-à-dire va se faire envahir par dire toutes les pensées, toutes fraîches et toutes fortes, de tous ceux qui sont dans l'église en train de faire leur cérémonie. Donc, ça veut dire que ça n'arrête pas, quoi. Donc, j'appelle ça un prélavage. Donc, faire de l'encodage à distance ou mettre des pierres, c'est un prélavage. Ça aide à déjà dégrossir le travail, tout en sachant que si même tu viens de passer ta voiture, on va dire, à la laverie, hein, il suffit qu'il pleuve bien et que tu sois dans les chemins boueux, t'inquiète pas, au bout de 200 mètres, ta voiture, elle sera aussi dégueu qu'avant, quoi. Donc, il y a des conditions. Par contre, quand nous parlons, moi et Corinne, d'encodage à distance, c'est un encodage atomique. Et cet encodage atomique demande une autre technologie. Et effectivement, on va dire, passe par les êtres de la nature et pas vraiment par les êtres de lumière. En effet, les êtres de la nature sont, d'une certaine manière, je vous rappelle, en 5D6D, ainsi que 1D2D, hein, pour les élémentaux. Donc, ils peuvent agir sur la matière d'une manière plus forte que, par exemple, un ange. Donc, ils ont une capacité supplémentaire. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, c'est que nous travaillons beaucoup, comme vous le savez, avec la grille cristalline, et nous avons, on va dire, de puissants amis cristallins. Et donc, en fait, nous passons par la grille cristalline, ce qui n'est pas le cas des êtres de lumière. Hein, les êtres de lumière, on va dire, passent par le Wi-Fi, passent par les ondes, passent par tout ça, hein, mais ne passent pas par les câbles. Nous passons par les câbles directement. Donc, ça change la donne, parce que dans un câble, il y a un courant. Et donc, à l'autre bout, vous imaginez que si je prends un câble où il y a deux fils, eh bien, s'il y a un bout, on met 220 volts, à l'autre bout, eh bien, vous allez avoir un courant qui va passer en 220 volts. Et donc, forcément, la différence, c'est la puissance de l'encodage. Et donc, grâce à ce courant généré, entre guillemets, eh bien, nous pouvons, à ce moment-là, écrire atomiquement. Alors, vous allez me dire, qui donne ce courant? Eh bien, c'est notre carcasse, principalement. Et donc, vous pouvez imaginer que les premiers encodages à distance que nous avons fait nous a littéralement vidés. Et donc, pour l'instant, la technique, on va dire, est relativement au point. Simplement, maintenant, il faut avoir, on va dire, l'alimentation suffisante pour pouvoir faire des tirs répétés. Et c'est donc à cela que nous travaillons actuellement, et c'est pour cela que nous sommes de retour à la maison, entre autres. Hein? Donc, normalement, nous allons reprendre les encodages à distance, et là, quand, on va dire, notre véritable batterie sera rebranché, nous aurons cette capacité à pouvoir encoder n'importe quel lieu. Alors, il y aura des priorités. Alors, il faut savoir que ce qui sera prioritairement encodé sera bien sûr tout ce qui touche les êtres de la nature, c'est-à-dire tous les dolmens, tous les menhirs, mais aussi tous les points stratégiques qui touchent l'encodage de l'eau. En clair, aujourd'hui, bien, on vous avait demandé jusqu'à maintenant de balancer un maximum de cailloux dans l'eau, ça c'est une chose, ils ne peuvent pas les faire. D'accord. Mais nous allons maintenant regarder plus précisément quels sont les ouvrages d'art, c'est-à-dire les ponts ou les choses qui touchent l'eau. Parce que là, nous avons déjà fait des essais et ça marche. de pouvoir encoder des bâtiments faits en pierre. Donc nous avons notre premier essai, nous avons essayé sur un phare, c'est un phare au bord de la mer, on ne pouvait pas y aller et il était capital qu'il soit encodé quand même. Donc ça a été notre premier essai et cet essai a été concluant. Ça veut dire que maintenant, nous pouvons encoder des ponts à distance. Nous pouvons encoder certaines parties, on va dire, que là où l'eau passe, sans pour cela venir à l'endroit indiqué physiquement parlant. Donc pour cet hiver, quand on va dire on aura atteint une patate suffisante, nous allons bien sûr regarder plus en avant tous les édifices qui se trouvent, on va dire, dans le bassin, on va dire, Rhône-Alpes, mais de la vallée du Rhône. C'est-à-dire du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Ici, on va oublier personne, y compris, bien sûr, tous les menhirs et dolmens qu'on va pouvoir faire, parce que nous avons encodé directement, on va dire, les glaciers du Mont-Blanc. C'est-à-dire que nous avons encodé certaines parties de la montagne, grâce à Google Earth, hein, donc on voyait exactement quel était, par exemple, le pan de montagne qui touchait le glacier, et nous avons fait en sorte de pouvoir encoder ce pan de montagne. Qui veut dire que non, les glaciers du Mont Blanc sont en cours, tout simplement, d'encodage. Donc ça, c'était, on va dire, suite à notre phare en bordure de Méditerranée. Et ensuite, nous avons fait un essai directement au niveau du lac Léman. C'est-à-dire, au niveau du lac Léman, nous avons encodé directement au niveau d'un vortex, avec bien sûr l'aimable autorisation de son gardien, qui est un dragon. Et nous l'avons encodé directement. C'est-à-dire que le code a été directement déversé dans le vortex. Et le vortex, en ce moment, est en train de diffuser, mais alors à une vitesse et avec une puissance incommensurable. Donc, nous avons la maman de Corinne qui s'amuse à mesurer, on va dire, la montée en puissance de ces différents lieux, et elle confirme que la montée en puissance du lac Léman est assez faramineuse. Alors, ce lac Léman a, comment dire, est pas complètement au nord du massif alpin, mais pas mal déjà quand même. Et ce qu'il y a, c'est que bah, c'est là que la source du Rhône commence d'une certaine manière. Donc maintenant, nous allons voir plus précisément dans les mois à venir comment flinguer à distance tous les monuments, tout ce qui sera encodable afin que quand il y aura la fonte des neiges, la vallée du Rhône soit littéralement sous l'eau encodée. Alors bien sûr, quand je dis la vallée du Rhône, ça veut dire aussi bien du côté alpin que du côté du massif central. Parce qu'effectivement, nous avons fait quand même quelques incursions du côté du massif central, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'eau qui arrive du massif central, qui se déverse dans la vallée du Rhône. Donc ça, c'est vraiment pour faire une coupure totale avec tout ce qui touche l'Italie du Nord. Ensuite, eh bien, il y aura toute la partie, on va dire, du sud-ouest, avec grosso modo tout ce qui touche la Garonne. Ça va être du même acabit, faut nettoyer par là-bas. Alors, vous allez me dire pourquoi le sud et moins le nord. Eh bien, la raison est simple. Vous prenez la carte de la tauromachie, c'est-à-dire de tous ces gens qui, pour des raisons culturelles, amènent des souffrances assez importantes, on va dire, à des animaux. Eh bien, regardez bien. Les arènes vont de l'Atlantique jusqu'à quasiment, on va pas dire que ça touche Marseille, mais pas loin quoi. Donc ce qui veut dire que toutes ces corridas alimentent les sangs. Donc nous avons, dans toutes les villes que nous avons pu, encoder toutes les arènes, carrément. Alors, au passage, je remercie les personnes qui avaient balancé quelques cailloux encodés dans le sable des arènes. Hein, je sais plus, c'était dans quelle ville, j'ai le nom qui m'échappe, mais quand nous sommes venus, nous avons discuté avec le gardien, car il y avait un vortex, bien sûr, en plein milieu de cette arène, et on lui a demandé, il m'a dit « Ah, mais je connais déjà le code, voilà, etc. » Bon, ça ne nous a pas empêché d'encoder l'arène quand même. Mais simplement, dites-vous bien que les petits cailloux qui sont balancés, hein, des fois un peu à droite à gauche, mais avec intelligence, peuvent faire des choses extraordinaires. Bon, bah ça c'était donc pour parler de l'encodage à distance. Donc je peux pas donner trop de détails techniques de comment nous procédons, mais dites-vous bien que c'est quelque chose de pas de nouveau, mais qui va faire une nette différence par rapport à tout ce qui va se passer en 2015. Car vous imaginez bien qu'on va flinguer tout ce qu'on peut partout. Donc là, ça va y aller fort. Hein, en fonction de nos capacités physiques, bien sûr, et de nos capacités à tenir la charge. Donc ça sera principalement tout ce qui touche, on va dire, les aides de la nature et tous les monuments qui ne sont pas religieux. En effet, pour les monuments religieux, nous sommes obligés d'y aller physiquement, car encoder le bâtiment est une chose, mais faire le ménage dedans en est une autre. C'est-à-dire que dedans, il y a beaucoup d'égrégores, beaucoup de cordons, il y a beaucoup de serrures. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au niveau de la grille cristalline, certains monuments ont, ont été reliés à d'autres par des chaînes, et ces chaînes ont bien sûr été cadenassées. Ce qui fait que, grosso modo, dans certains monuments religieux, vous ne pouvez pas allumer la rampe, car le vortex est limité à zéro. Voilà. Donc, les invalides ont bien sûr fait un maximum pour bloquer tout ce qui pouvait, bien sûr, aider le préhumain à monter en fréquence. Donc, nous ne pouvons pas, flinguer un cadenas à distance. Nous ne pouvons pas couper des raccords, d'égrégores à distance. Donc, encoder le bâtiment est une chose, mais c'est insuffisant, nous concernant, parce que je vous rappelle que la grande majorité des édifices religieux bâtis avant 1450 sont tous sur la grille cristalline. Après, c'est un peu plus aléatoire. Et donc, j'en profite pour en rajouter un tout petit peu plus là-dessus. On me dit, mais pourquoi pas les mosquées, pourquoi pas les synagogues, pourquoi pas? Parce que celles-ci sont venues beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et généralement, elles ne sont pas situées sur un vortex. Et donc, n'ont pas d'incidence directe sur la grille cristalline. Aujourd'hui, c'est la grille cristalline qu'il faut, nettoyer. Parce qu'une fois qu'elle sera en état, dites-vous bien que c'est l'Internet, une fois que ça c'est en état, tout ce qu'il y a entre se fera nettoyer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'aucun involuant ne pourra se servir de la grille cristalline pour voyager, et à chaque fois qu'il va essayer de voyager d'un endroit à un autre, il va se prendre tous les courts jus, il va se prendre la grille cristalline en permanence. Donc, c'est comme quelqu'un qui dit « je vais en cavale », mais il trouvera toujours des routes, et sur les routes, il y a toujours des bagnoles qui roulent. Donc là, c'est pareil, en quadrillant véritablement la grille cristalline, les sombres vont petit à petit avoir de plus en plus de difficultés, à bouger, et deux, forcément, par notre travail conjoint, nous allons pouvoir progressivement, éteindre ce qu'il y a entre les mailles. Donc, à terme, il est évident que l'objectif est de faire que la France soit absolument dégagée de tout cela. Alors, tout le monde sait que la France est le cœur du chakra de l'humanité, mais ne sait pas aussi. C'est que tous les pays du monde sont rattachés à la France. C'est comme votre pompe cardiaque. Il n'y a pas une cellule qui n'est pas connectée d'une manière directe, au cœur. C'est-à-dire que toute la merde qu'il peut y avoir dans le corps de l'humanité transite tôt ou tard par la France, par la pompe. Donc, en nettoyant la pompe, ça fera que, grosso modo, tout ce qui viendra à la pompe se fera nettoyer. Et forcément, comme nous sommes dans un circuit fermé, tout ce qui partira du cœur ira aussi faire du ménage. C'est-à-dire que ça sera du sang neuf, comme on dit. Et donc, tout le sang qui est un peu pollué, lui, il va se faire étamer, il va se faire travailler sérieusement. Donc, concrètement parlant, c'est pour ça que l'accent est mis sur la France et restera sur la France, principalement pour l'instant. Ensuite, il y aura effectivement des tirs, d'encodage à distance sur les pays étrangers. Il y a déjà certains points qui sont stratégiques et que nous allons faire d'une manière ou d'une autre, mais vous imaginez bien que plus c'est loin et plus il faut d'énergie pour pouvoir le faire. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore cette capacité physique de pouvoir le faire, mais quand ça sera possible, et ça le sera, puisque plus nous allons, muscler sur la France avec des distances de plus en plus grandes, et plus forcément on arrivera à faire sur de très longues distances. Voilà, donc la chose sur l'Arctique est toujours d'actualité, c'est-à-dire que l'essai, d'encodage des glaciers du Mont Blanc était un essai local. Nous allons maintenant, pour l'hiver qui vient, voir comment on va se débrouiller, bien sûr avec l'aide on va dire de l'invisible, parce que là, sans eux, il nous sera absolument impossible de le faire. Donc, les choses sont en cours, mais pour l'instant, il nous faut augmenter notre capacité, on va dire, énergétique. Et pour cela, eh bien, il n'y a pas 36 000 manières, il faut augmenter notre fréquence. Or, pour augmenter notre fréquence, nous devons arrêter d'être, on va dire, sur un champ de bataille, et d'être, on va dire, loin de notre grotte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est évident que quand nous allons faire nos opérations en plein centre-ville, que ce soit de Lyon, de Grenoble ou de tout ça, je peux vous dire que ça vous baisse les fréquences, et surtout quand vous y restez toute la journée, et qu'en plus vous êtes obligé de donner plein d'énergie pour encoder un certain nombre de bâtiments. Donc il est évident que là, on n'est pas dans le meilleur des environnements pour pouvoir être haut en fréquence. Voilà. Donc pour l'instant, c'est repos. Je continue. OPP et les involuants. Avez-vous déjà eu des problèmes avec des involuants humains? Menaces, agressions? Oui. Donc, oui, nous en avons déjà eu. Nous avons déjà eu, effectivement, des menaces. Nous avons eu des agressions, on va dire, verbales, et même, on va dire, presque physiques dans certains cas. Le truc, c'est que ce sont souvent, en fait, les religieux eux-mêmes. C'est-à-dire les curés, les nonnes. Enfin, bref, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont complètement sous contrôle. Et donc, nous avons même été poursuivis par un curé, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable, quoi. Tu te déplaces dans une autre église, il vient et te suit, quoi. Et donc, dans certaines églises, nous n'avons pas pu faire tout ce que nous aurions dû faire. Pourquoi ? Parce qu'on avait quasiment un service de sécurité au cul, quoi. C'est-à-dire que il faut savoir que dans certaines régions, ils sont tous sous surveillance, les églises, avec des caméras, des machins, des trucs, et vous avez forcément des agents de la sécurité. Et donc, nous avons vu à plusieurs fois, effectivement, des agents de la sécurité débarquer, qui s'essayaient de se faire passer pour des touristes, mais... on n'a pas besoin de regarder quelqu'un dans les yeux pour savoir si c'est un agent de la sécurité. On peut savoir en ressentant simplement sa vibration, et quand quelqu'un vous regarde, vous sentez bien qu'il vous regarde. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de tourner la tête. Donc, effectivement, les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Et c'est pour cela que quand on parle d'involuant, dites-vous bien que le travail que nous faisons est de plus en plus délicat. Nous ne pouvons plus faire comme on veut. Alors, une question de Jardin Zen. Commencer avec la tournée 2, l'opération Karcher a pris de l'ampleur en tournée 3. Te sera-t-il nécessaire de revenir sur la tournée 1 pour activer le Karcher, et sinon pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons être obligés de repasser, mais bon, l'article devrait, on va dire, paraître la semaine prochaine, après cette conférence. Donc, dites-vous bien que là où était construite une église, c'est parce que c'était un lieu énergétique, parce qu'il y avait un vortex. Or, s'il y avait un vortex, il y avait un gardien, un EDLN, un être de la nature. Et donc, si, comment dire, l'église a mis des murs, l'objectif, c'était surtout de virer l'EDLN. Et c'est ce qu'elle a fait. Qui fait que aujourd'hui, depuis l'implantation des églises, eh bien, aucun vortex n'est, on va dire, tenu à jour, on va dire, techniquement parlant. En clair, si un vortex est le croisement de plusieurs lignes de la grille cristalline, dites-vous bien que les plusieurs lignes de cette grille ont été coupées par des autoroutes, par des quartiers bétonnés, par plein de choses, qui fait que un vortex va se retrouver totalement déséquilibré. Et comme il se trouve déséquilibré, eh bien, pour éviter que ça fasse des malheurs, eh bien, à ce moment-là, il se met en mode de réduction. Qui fait qu'aujourd'hui, en termes de vortex, vous avez un maximum, ça varie entre 0 et, je veux dire, un maximum de 20% de la capacité réelle du vortex. Et la seule solution de pouvoir redonner, on va dire, la patate à ces vortex est simplement de réintroduire des êtres de la nature, des gardiens de vortex, à l'intérieur des édifices religieux. Or, la difficulté, c'est que le système actuellement posé par les involuants, c'est comme une cloche. Donc il y a une cloche au-dessus de chaque édifice religieux. Et cette cloche empêche tout être de l'invisible de pouvoir venir. Quand je dis être de l'invisible, c'est surtout la 5D6D. C'est-à-dire tout être de la nature pouvant faire quelque chose. La seule manière de pouvoir faire rentrer ces êtres de la nature à l'intérieur de l'édifice est de les porter, non pas sur nous, mais en nous. Qui fait que nous, en tant que préhumains, nous pouvons passer la sécurité de la cloche sans problème. Et une fois qu'on est à l'intérieur de la cloche, à ce moment-là, on peut libérer notre ami pour qu'il puisse aller faire son boulot, c'est-à-dire remettre le vortex en état. Mais aussi pouvoir réparer toutes les rampes qui ont été massacrées. Hein, et ça, ça fait partie de... J'en ai déjà parlé, je crois. Hein, c'est-à-dire que certaines sociétés se sont amusées à faire effectivement, à défoncer l'allée centrale pour mettre des grilles d'aération et de chauffage. Dites-vous bien que derrière cette logique du chauffage, en fait, cachait autre chose. C'est-à-dire la capacité à faire que aucun être humain ne puisse monter en fréquence. Tout simplement. Vous voyez, donc, il y a plein de choses. Donc, nous allons donc repasser systématiquement, on va dire, dans toutes les grandes villes de France. Et là où nous avions déjà encodé, on va dire, un bâtiment, une cathédrale, car c'était à l'origine, en fait, c'était pas prévu qu'on fasse. Hein, lors de la tournée 1, on l'a fait seulement à partir d'Épinal, mais dites-vous bien qu'on va repasser les villes au peigne fin, une à une. Alors, l'année prochaine, notre travail consistera non pas à aller encoder des menhirs, non pas à aller encoder des ponts, non pas à aller encoder des monuments de pierre ou des choses qui sont en rapport avec les êtres de la nature, parce que la difficulté, c'est de pouvoir y accéder. Alors, vous savez que les êtres de la nature, dans la majorité des cas, se réfugient dans les hauteurs ou dans les lieux inaccessibles à l'humain. Donc, si ma voiture, on va dire la barre de torsion arrière a cassé, c'est parce que tout simplement, à travers nos différents périples dans ces tournées-là, nous avons passé par des chemins et des trucs, etc., qui ont fait que les suspensions ont lourdement souffert. C'est pas un 4x4. Et donc, le résultat, on a les suspensions qui marchent. Donc, l'année prochaine, il n'est pas question qu'on perde notre temps, d'une certaine manière, à aller dans des endroits inaccessibles. Nous allons directement encoder à distance. Voilà. Donc ça, c'est une partie, on va dire, résolue. Mais celle qui ne l'est pas, c'est qu'il va falloir qu'on refasse le passage dans toutes les villes. Même là où nous avons encodé. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir ramener des êtres de la nature dedans. En clair, il va falloir repasser partout où on est passé, que ça soit le nord ou le sud. Alors, quand on passera dans le nord, enfin dans le nord, dans le centre, etc., parce qu'il y a quand même des zones où nous ne sommes pas encore passés, c'est parce que c'est moins, excusez-moi du terme, urgent. Ce qui était urgent, c'était surtout le sud. Le sud, puisqu'on était contaminé à fond par la foi religieuse des Espagnols et des Italiens. Donc ça, c'était l'urgence. Donc on l'a fini sur les genoux, mais on l'a fini. Mais on y retournera pour apporter des êtres de la nature, et aussi, on va dire, fignoler un peu quand même, parce que nous n'avons pas pu faire tous les édifices que nous aurions aimé faire. Donc, il est prévu de refaire une tournée 1, ça c'est clair, mais avec une musique un tout petit peu différente par rapport à avant. Avant, eh bien, on se déplaçait tous les jours d'un point à un autre, ce qui nous laissait peu de temps pour faire un véritable travail de Karcher. Donc maintenant, eh bien, nous avons expérimenté, en fait, le fait est de rester chez quelqu'un pendant 2 jours ou 3 jours et de faire des mini-circuits pendant la journée. C'est-à-dire, on va dans une ville, on y passe la journée, on revient. Ensuite, on va dans une autre ville. Alors, je prends un point, si vous êtes, on va chez quelqu'un, point barre. On se dit, bon bah d'accord, maintenant on fait le nord, une boucle vers le nord, on revient. On fait la boucle vers le sud, on revient. On fait la boucle vers l'est, on revient. Et on fait la boucle vers l'ouest, on revient. À partir de là, on va après dans un autre point. Qui fait que, à ce moment-là, moins de gens vont nous recevoir. Ça, c'est clair. Mais que nous, on va pouvoir œuvrer beaucoup plus facilement et faire un véritable travail de Karcher. Car ce n'est pas comme je l'ai fait lors de la tournée 1, de se déplacer de 200 km tous les jours, qui fait qu'on peut faire du Karcher. Là, c'était l'objectif, c'était d'encoder des tas de cailloux. Là, l'optique est très différente. Donc, nous avons pu voir aussi que nous sommes quand même... C'est moins éreintant pour nous quand on reste plusieurs nuits d'affilée chez une même personne, hein, parce que ça nous évite d'avoir à vider et re-remplir la voiture tous les jours. Car, vous le savez, nous sommes accompagnés d'une myriade d'esprits cristallins, et je ne vais pas dire, mais le minéral, ça pèse lourd, et ça prend vraiment beaucoup de temps à défaire, refaire, remettre, etc. Parce qu'il faut s'en occuper, hein, ce sont comme des enfants. Dans la matière, si on n'est pas là pour les déplacer, pour les baigner, pour les aider, bah, ils peuvent rien faire. Donc, le fait de changer de maison tous les jours est quand même quelque chose d'assez fatigant. on va dire. Donc imaginez que quand nous faisions, parce que des fois on fait, bon, ça dépend, on faisait 6, 7, jusqu'à 12 édifices religieux par jour, et d'arriver, on dit mini-conf. Et ça se termine à 2h ou 3h du matin. On dit le lendemain matin, il faut se relever parce qu'il y a encore à turbiner. Et puis, ben, vous recommencez le lendemain mini-conf. Donc, ça ne paye pas de mine comme ça, mais si quelquefois certaines personnes ont été surprises de mes comportements, il faut comprendre que quelquefois la fatigue fait qu'on est moins doux, on est un peu plus anguleux, un peu plus direct. Ce n'est pas notre état, on va dire, forcément naturel, mais la fatigue, des fois, surtout quand c'est une fatigue qui s'accumule au fil du temps. C'est léger, vous ne le sentez pas, mais vous pensez toujours que vous êtes en forme, mais vous sentez bien que vous n'êtes plus tout à fait quand même à la hauteur. Et donc forcément, certaines personnes, pendant ces réunions, s'imaginaient trouver deux êtres extrêmement lumineux, rayonnants, etc., etc. Mais il y a des fois quand même, selon ce qui s'était passé pendant la journée, on en avait vraiment plein les bottes. Donc comprenez que nous ne sommes pas des individus comme certaines personnes qui s'amusent à faire des stages ou des trucs ou des venues sur France, ils viennent, ils repartent. Ils peuvent être lumineux. Mais si on leur demandait un travail de fond pendant 2 mois d'affilée tous les jours, je ne sais pas s'ils seraient aussi lumineux. Voilà, donc ça c'était un petit aparté pour dire que le fait de rester plusieurs jours chez la même personne aide à ce moment-là à être moins fatigué, et comme ça, s'il y a, on va dire, une mini-conf, elle est plus facilement réalisable quand on sait qu'on va rester 2-3 jours ou 4 chez une personne. Alors à ce titre, je tiens à remercier les dernières personnes qui nous ont, on va dire, accueillis dans la tournée 3, hein, parce que l'opération, on va dire, Karcher, a fait qu'on est resté plusieurs nuits place. Donc, je tiens à remercier les Marseillais qui ont été, on va dire, exemplaires, dans le sens où non seulement on a eu le droit à un petit appartement en plein Marseille, mais le truc, c'est qu'ils étaient là et ils servaient de chauffeurs. C'est-à-dire qu'on était sur la banquette arrière, on voyait le monument, on descendait, ils allaient se garer après, et ils attendaient qu'on ressorte de l'église. Et comme ça, ils ont pu nous emmener dans nombre d'églises, parce que eux connaissent les routes, eux connaissent, ils conduisent comme là-bas, quoi. C'est-à-dire que ils n'ont pas de soucis. Et comme ils étaient deux, eh bien, donc c'est Patrick et Arnaud, eh bien, pendant qu'il y en a qui conduit, il y a l'autre qui regarde où il y a les places de parking. Enfin bref, ça s'organisait, qui fait qu'on a pu, en l'espace d'une journée, faire un travail colossal, parce que tout était déjà organisé, mâché. Et vraiment, et quand on rentrait à l'appart, ils nous laissaient. C'était hop, et puis repartaient. Voilà. Ce qui faisait qu'on pouvait se reposer pour pouvoir repartir le lendemain pour une autre journée comme ça. Et donc c'était vraiment très intéressant. Et c'était vraiment parfait. C'est-à-dire que là, nous avions les conditions idéales pour être au maximum efficace. Mais bon, c'est pas ce qu'on demande forcément. Enfin, c'est pas ce qu'on demande. On ne va pas demander ça pour tout le monde, on est d'accord. Donc nous avons été aussi chez Jean-Loup, on a été chez Alain, enfin bon, chez Jean-Claude. Donc je tiens à vous remercier vraiment de cette capacité de nous avoir laissé un petit peu d'air, on va dire, hein, quand même, pour pouvoir respirer et nous reposer, tout en nous permettant de pouvoir faire un travail de fond important. Alors, j'en profite aussi pour dire que nous avons découvert que la meilleure façon, parce que vous pouvez aller sur internet chercher toutes les églises, les machins, il y en a dans tous les sens, et ils sont classés selon des catégories qui sont pas toujours compréhensibles. Le truc, c'est que nous avons trouvé que la meilleure façon d'agir est d'aller tout simplement à l'office de tourisme. Vous allez à l'office de tourisme, vous demandez le plan de la ville. Alors vous avez souvent le plan de la ville élargi et un centre-ville qui est un petit peu, sur l'autre partie, et vous avez tous les édifices religieux. Alors là, c'est tranquille. Donc, dans la fin de la tournée 3, ça a été simple. C'était systématiquement, on arrive dans une ville, office de tourisme. On y arrivait, on regardait le plan, on posait les questions et on décrétait, grosso modo, quelle était la tournée qu'on allait faire. Et à partir de là, on garait la voiture dans un parking, X, Y, Z, et on faisait tout le reste à pied. qui fait qu'on n'avait pas de problème de parking, à part que ça coûte, mais bon, c'est quand même mieux que de tourner pendant une heure pour trouver une place. Et on pouvait enchaîner les églises les unes après les autres. Donc, à titre, on va dire, futuriste, eh bien, je vous recommande, s'il vous plaît, si vous voulez que votre ville soit faite. Quand je dis une ville, c'est pas le village de 300 habitants où il y a une église, d'accord ? D'ailleurs, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'office de tourisme. Mais là où il y a un office de tourisme, c'est-à-dire qu'il y a une ville assez conséquente, eh bien, allez vite, vite, vite à l'office de tourisme, prendre ce plan, et de nous le transmettre, à moi ou à Brigitte. Alors, je préférerais que ce soit Brigitte dans l'immédiat, de telle manière que lorsque l'on fera nos tournées, on puisse déjà savoir combien de monuments, c'est quoi les configurations, où on va pouvoir se garer, afin, on va dire, de flinguer un maximum. Parce que l'objectif, c'est vraiment de faire du ménage. Donc, s'il vous plaît, si vous pouviez faire ça. Alors, si vous êtes trois de Lille, enfin de Lille ou cinq à m'envoyer les plans, essayez de vous concerter un tout petit peu en passant par le réseau éventuellement. Mais sachez que avoir un plan de la ville, enfin, même si, par exemple, on venait à passer chez vous, ayez sous le coude le plan de la ville, mais pas un truc, vous savez, routier, là. Non, un truc de l'office de tourisme, où ils indiquent les monuments, et donc forcément les édifices religieux. Alors, généralement, c'est écrit en plus gras, donc on sait quelle église, comment qu'elle s'appelle, parce que, bien souvent, des églises, il n'y a absolument rien qui les donne. Donc, c'est quand même assez embêtant de se trouver dans une grande ville où vous voyez, bon, vous dites, bon, ça doit être une église, alors c'est pas tout une paroisse, une chapelle, une basilique, enfin, vous savez pas, et il n'y a rien d'écrit. Il n'y a absolument rien. Alors, ils disent quand il y a les messes, mais ils disent absolument pas c'est quoi le nom de l'église. Donc, moi, je mets église. Puis voilà. Vous voyez, c'est difficile de pouvoir bien travailler. Par contre, quand on a les plans de l'office de tourisme, généralement, les noms sont indiqués. Et donc ça aide. Alors, je dis cela, c'est surtout par rapport à ce que Brigitte et Julien sont en train de travailler dessus. C'est-à-dire que Julien, c'est notre aimable informaticien concernant les cartes. Et donc, là, nous avons regardé ce qu'il nous a fourni. Hein, donc, il y a quelques petites modifs encore à faire pour qu'on puisse travailler convenablement et que l'on puisse vous mettre en ligne directement, bien sûr, tous les édifices qui ont été encodés, déjà. Alors ensuite, il y aura bien sûr le nom de l'EDL 7D12D qui sera mis avec. Et vous verrez que là, il y a des nuances à faire, car nous avons bien sûr encodé certains monuments religieux qui sont des petites chapelles de rien du tout. Certaines sont même fermées carrément, mais qui était important de le faire. Parce que ce que vous ne saviez pas, enfin que vous savez indirectement, c'est que beaucoup de petites chapelles, beaucoup de petits monuments, d'ailleurs des grandes églises ont été interdites au public, hein, c'est-à-dire elles sont non fréquentables, ça n'empêche pas qu'il y a quand même un EDL dedans, elles sont reliées à la grille cristalline, et comme elles sont reliées à la grille cristalline, ça veut dire qu'elles alimentent aussi des cités cristallines. Je rappelle que les cités cristallines sont les cités, les villes où habitent simplement les êtres de la nature. Donc, nous avons encodé beaucoup de petits trucs, des fois, à droite à gauche, qui ne payent pas de mine, mais qui, en fait, sont connectés avec des cités cristallines. Donc là, eh bien, ma mémoire étant malheureusement un petit peu pas déficiente, mais vu le nombre qu'on a fait, puisque j'ai plus mémoire, mais ça dépasse, il y a plus de 400 monuments. Donc, se rappeler exactement chacun d'entre eux, c'est pas évident. Mais, donc, vous verrez bien, et c'est pour cela que ne sera mis en ligne que les édifices auxquels on pense que c'est bien que vous puissiez y accéder. Puis, il y en a d'autres, on se dira, ah, mais non, ça, c'est pas la peine, puisque c'est fermé, c'est un petit bout de truc, un petit bout de machin. Donc, là, bah, on ne mettra pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas été. Mais, parce qu'on ne va pas mettre tout. Donc, c'est un gros travail qui est fait par Brigitte, principalement. Et donc, à fort à mesure que sa saisie avancera, eh bien, ça sera mis en ligne. Donc ça, je vous l'ai annoncé comme petit cadeau de Noël. Je pense que d'ici là, on aura quand même mis pas mal de choses en ligne. Donc je répète, nous allons de toute façon repasser partout où nous sommes passés. Qu'il y ait eu Karcher ou pas. Alors, là où il n'y a pas eu Karcher, on fera Karcher. Et là où on a fait Karcher, de toute façon, on amènera un être de la nature. Voilà. Alors, une nouvelle technologie a été développée pour pouvoir amener aussi des êtres de la nature directement dans les nouvelles églises que nous allons encoder. Donc, je ne veux pas vous donner le détail, mais dites-vous bien que c'est pour éviter qu'on ait à recommencer le travail. À repasser une seconde fois. Donc, nous essayons de trouver nous avons relativement trouvé une solution qui permettrait à des êtres de la nature de pouvoir rentrer dans une église, on va dire, fraîchement encodée, et de pouvoir commencer son office. Voilà. Je rappelle que là où il y a des vortex, il y a des églises. Enfin, là où il y a des églises, il y a souvent des vortex. Et s'il y a un vortex, ça veut dire qu'il y avait un gardien. Et donc, ça veut dire que les religieux ont volé ce vortex aux êtres de la nature. Ils se sont appropriés le vortex. Enfin, c'est du vol. Donc, on va simplement rendre les vortex à leurs propriétaires, à ceux qui sont en charge de les maintenir en état, en bon état de fonctionnement.